Elle gît sur le sol, dans une mare de sang. Une grand-mère, on ne peut plus banale. Une abuela, potelée, aux cheveux gris. Elle tient encore le sachet de viande fraîche qu'elle venait d'acheter. Et ses ongles sont parfaitement peints, d'un rouge, vif. Elle a reçu deux balles, dont une en pleine tête. Elle s'est écroulée sur le trottoir, là où tout a commencé. Là où tout s'arrête pour elle. Le tireur l'a visée, précis, rapide, en plein après-midi. La vieille dame était prête à mourir. Elle s'est cachée trop longtemps. Elle a trop de sang sur les mains. Elle a commandité plus de 250 meurtres. Son corps s'étale sur le trottoir. C'est une reine déchue. Pour la madrina, marraine de la cocaïne, c'est fini. Griselda Blanco lâche son dernier souffle. Elle est morte comme elle est née, sur les trottoirs sales de Colombie, à Medellín, sa ville, son royaume et son enfer.
Sa mère est venue s'y installer en 1946. Griselda n'avait que 3 ans. Une mère seule, pas de père, une mère pauvre, obligée de vendre son corps pour ramener un peu de pain à la maison. Comme tous les enfants de la Comuna 13, un vaste bidonville sur les hauteurs de Medellín, la petite Griselda passe la plupart de ses journées livrée à elle-même, à errer entre les poubelles.
Dans les années 50, Medellín n'est pas une ville pour les enfants. Dans ses collines vertes, c'est l'anarchie la plus totale. Une guerre civile oppose l'État conservateur colombien et les radicaux de gauche. Il n'y a pas un jour sans mort. La Comuna 13 est sur le qui-vive. Tout le monde est armé. Prêt à tirer sur n'importe qui, n'importe quand. Résultat, les cadavres s'empilent dans les rues.
La petite Griselda n'a pas peur de la mort. Elle vit avec. L'odeur de la vieille charogne mélangée à celle des poubelles ne la dérange plus. Elle ne va pas à l'école. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle se forme dans la rue. C'est une petite fille brune et fine, un joli minois et un cœur de pierre. Elle a de nombreux amis, une bande de copains qu'elle mène au doigt et à l'œil. Personne n'ose lui tenir tête. Griselda est une dure, une effrontée, qui ne se prive pas de faire les poches des cadavres avant de les enterrer. Et quand le Maccabée est sans le sou, Griselda et sa petite armée descendent de leur colline faire les poches des richards de la plaine de Medellín. La petite fille rapporte ce qu'elle peut. À la maison, sa mère, fatiguée de faire la prostituée, noie son chagrin et sa haine des hommes dans l'eau de vie. Plus elle s'enivre, plus elle frappe Griselda. La petite ne compte plus le nombre de coups qu'elle a reçus. Les journées sont toutes les mêmes. La rue, la faim, le vol, les coups. Griselda rêve d'autre chose. Elle veut dominer le monde et ne jamais plus manquer de rien.
La légende de Griselda commence à ses 11 ans, le jour de son premier kidnapping. Faire les poches ne rapporte pas assez. Griselda et sa bande passent au niveau supérieur. Ils enlèvent un enfant de 10 ans dans la plaine de Medellín. Ils l'ont choisi lui parce qu'il est bien habillé. Donc ses parents doivent forcément être assez riches pour payer une rançon convenable. Griselda la fixe à 5000 pesos, une petite fortune. La petite troupe enferme le gamin dans une de leurs planques de la Comuna 13. Ils font parvenir une lettre aux parents, puis patientent. Un jour. Deux jours. Pas de réponse. La bande est embêtée. Le plan n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas reçu l'argent attendu et ont un gamin sur les épaules. Tant pis. Ils ne vont quand même pas le relâcher. Les armes pleuvent à Medellin. La petite Griselda, 11 ans, saisit un flingue, le pointe sur le petit otage, tire entre les deux yeux. Elle vient d'abattre froidement un gamin à peine plus grand qu'elle, son premier meurtre.
Sa mère, Ana Lucia, boit de plus en plus. La petite cabane qu'elle se partage devient invivable. Griselda ne sait plus quoi faire pour éviter les coups. Alors, à ses 14 ans, elle décide de fuir. Fuir sa mère, fuir la Comuna 13, fuir la misère. Peu importe la destination, rien n'est pire que les collines de Medellin. Elle part avec le strict minimum, les habits qu'elle porte, et marche longtemps avant d'arriver en ville. Son physique de jeune femme tout juste formée ne passe pas inaperçu. Les hommes la reluquent comme un morceau de viande. Au loin, sur le trottoir, une femme aussi l'observe. Une mère maquerelle. Ce sont les premiers pas de Griselda dans la prostitution. La première fois aussi qu'elle découvre le luxe. Sommaire. Une chambre d'hôtel, des draps propres, un lit confortable et, summum pour la jeune fille, de vraies toilettes individuelles. Qu'importe qu'il faille se vendre pour y avoir accès, Griselda ne souhaite qu'une chose, vivre confortablement. Les journées et les passes s'enchaînent. Griselda encaisse. Homme, femme, elle accepte tout, tant que ça lui rapporte. C'est une pute, oui, mais elle n'a plus faim. Et surtout, elle est libre et indépendante. Un jour, en boîte de nuit, Griselda rencontre un jeune homme, Carlos Turrillo, un homme 100% colombien. Il a la dégaine d'un businessman, un beau costume, une belle voiture, un sourire carnassier et une grosse montre. Il n'en faut pas plus à Griselda pour tomber sous le charme. Ce Carlos qui la regarde fixement a l'air tellement important. Avec lui, c'est sûr, elle ne manquera de rien.
En réalité, Carlos Trujillo n'est pas un businessman. C'est un petit trafiquant. Une petite frappe qui vend des faux passeports aux Colombiens qui veulent immigrer aux États-Unis. Un passeur. Mais aussi un dealer. Il achète de la marijuana aux agriculteurs colombiens et la revend une petite fortune aux touristes américains. Un trafic de petite envergure. Rien de très impressionnant dans les années 60.
Griselda et Carlos se marient quelques mois après leur rencontre. Le couple file le parfait amour. Griselda, à la vingtaine, a arrêté de faire le trottoir pour rejoindre la mini-entreprise de son mari. Elle fabrique avec lui de faux passeports et se lance dans le trafic de la marijuana. Pourtant, Carlos ne veut pas qu'elle se mêle de ses affaires. Il veut en faire une femme au foyer, bien sage, bien docile. Tout le contraire de Griselda. En mars 1962, elle donne naissance à son premier enfant, Dixon. Un prénom américain, choisi par Carlos. Un autre petit garçon arrive 3 ans plus tard, Hubert. Mais Griselda n'a aucune envie de jouer les nounous. Elle veut être sur le terrain, gérer le business. Et puis, elle trouve Carlos bien trop mou. Il pourrait se faire tellement plus de fric s'il avait des coronets. Un troisième garçon naît dans la foulée. Griselda l'appelle Osvaldo. Griselda, 22 ans, mariée, 3 enfants, ce n'est pas du tout la vie dont elle rêvait. Elle veut s'en mettre plein les poches. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire. sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
Carlos Trujillo meurt en 1970, officiellement d'une hépatite. D'après une rumeur, c'est sa propre femme, Griselda, qui l'aurait abattu. Il gênait trop son business. Alors, après 10 ans de vie commune, elle lui aurait mis une balle de revolver dans le buffet.
L'ambition de Griselda est grande. Personne, pas même son mari, ne doit se mettre sur son chemin.
Quelle que soit la cause du décès de Carlos, le résultat est le même. Il n'est plus là. Griselda se retrouve veuve, avec 3 enfants, et un paquet de marijuana à revendre. C'est à ce moment précis que Griselda Blanco saute à pieds joints dans les bas-fonds de la criminalité.
La marijuana ne rapporte pas assez. Et Carlos n'est plus là pour la freiner. Ça tombe bien. Griselda a entendu parler d'une drogue beaucoup plus addictive et bien plus lucrative. Une drogue qui n'est produite qu'en Amérique latine, surtout en Colombie et en Bolivie. Une poudre blanche issue de la feuille de coca. Et les gringos américains en raffolent. La cocaïne.
Avec $500, Griselda achète son premier kilo de cocaïne à un certain Alberto Bravo. Un bel homme. Un businessman encore. Enfin, un petit dealer de coke colombien encore. Il a de bons fournisseurs. Il connaît bien le milieu et lui aussi a de grandes ambitions. Entre Griselda et Alberto, le courant passe immédiatement.
Voilà un homme qui en a dans le pantalon. Lui aussi veut étendre son business. Et c'est peut-être ce qui séduit le plus Griselda. Le nouveau couple n'a peur de rien et surtout n'a rien à perdre. Ils se marient, fabriquent 2 faux passeports, répartissent le kilo de cocaïne dans 2 sachets de 500 grammes et cachent le tout dans le soutien-gorge de Griselda. La jeune femme a une poitrine généreuse. La sécurité de l'aéroport n'y verra que du feu. Main dans la main, de la coke pure plein le décolleté, les bravos, remplis d'amour et d'ambition, quittent pour la première fois la Colombie. La jeune Griselda a le cœur léger, la tête pleine de rêves et de projets. Elle s'éloigne encore un peu plus de son passé misérable, vers un avenir brillant. Direction la ville de tous les possibles, New York City.
Le couple s'installe dans un appart pourri du Queens, situé à l'est de la ville, entre les 2 aéroports. C'est ici que la plupart des immigrés vivent. Des Latinos, des Asiatiques, des fuyards de l'URSS. Un quartier où le chômage et la délinquance règnent. Une sorte de zone de non-droit, où chacun survit comme il peut. On y croise des putes, des dealers, des camés, et des zonards qui passent leur journée à fouiller les poubelles.
La coke se vend comme des petits pains. Oh, la clientèle des bravos est loin de vivre dans les quartiers du Queens, non. Ils sont avocats, médecins, traders. Ils ont un paquet de fric à dépenser et passent leur week-end en boîte de nuit, le nez dans la poudre. Griselda est folle de joie depuis qu'elle a mis les mains dans la drogue. Elle savait bien que c'était un business juteux. Les dollars américains pleuvent autour d'elle. Elle collectionne la tête des présidents des États-Unis imprimée sur les billets verts. Celui qu'elle préfère, c'est Franklin. Sûrement parce qu'il trône sur les billets de $100. Pour se fournir, le couple multiplie les allers-retours en Colombie, de quoi ramener 1 kilo à chaque voyage. Jusqu'à ce que Griselda en ait marre de faire le sale boulot et décide de professionnaliser l'importation. Après tout, c'est elle la bosse. Elle recrute d'abord 10 de jeunes colombiennes, des jolies femmes à la recherche d'argent facile. Griselda est passée par cette misère. Elle sait bien que ses filles sont prêtes à tout. Et puis, elle a constaté elle-même que dans les aéroports, les femmes éveillent moins de soupçons. Quand elle voyage avec Alberto, C'est lui que les agents de douane regardent. Jamais elle. Plus Griselda passe de drogue aux États-Unis, plus elle gagne en confiance et en autorité. Et plus elle a de pouvoir, plus elle se complaît dans son activité de trafiquante. Ensuite, les Bravo ouvrent une entreprise de sous-vêtements à Medellin. Griselda a une idée brillante, une idée géniale dont elle n'est pas peu fière. Fabriquer des soutiens-gorge sur mesure auxquels ils ajoutent un compartiment secret pour stocker la cocaïne. Ni vu, ni connu. Elle a fait l'expérience elle-même lors de son premier voyage. Les agents des douanes n'avaient même pas osé regarder son décolleté, alors le fouiller. Griselda est confiante. Les jeunes femmes, les mules, multiplient les voyages en avion avec les soutiens-gorge des bravos bourrés de poudre, sans jamais se faire repérer. En quelques mois, ils importent plusieurs centaines de kilos de coke colombienne aux États-Unis. Griselda jubile. En quelques mois, le couple est millionnaire. Et ce n'est que le début.